fréquence.
Haute fréquence, Gabriel de Sarzan.
Est-ce que la biodynamie est une agriculture spirituelle ? Souvent comparée au bio, la culture biodynamique interdit les engrais de synthèse et utilise les forces du cosmos et le calendrier lunaire comme outil de travail.
Dans la biodynamie, les deux choses très importantes, c'est le sol. Donc si on a un sol sain, eh ben, on aura une plante saine, ça paraît cohérent. Donc très important le sol. Et puis la deuxième chose très importante, c'est tout ce qui est un peu cosmos, donc justement cette interaction avec les planètes, avec le soleil, la lune, etc.
La vigneronne Laura Paco, en train de tailler ses cèpes de vigne, nous l'entendrons sur sa pratique en biodynamie, comme aussi le maraîcher Raphaël Jetta. C'est Camille Besse qui nous emmènera tout à l'heure à travers champs et vignes sur la côte lémanique dans le canton de Vaud. Suite à ces moments en plein air, nous plongerons dans le rap d'un chrétien catholique, ce qui est plutôt original, vous l'entendrez. Mais tout de suite, juste après des réactions d'auditeurs, nous nous rendons en Terre Sainte, où l'ordination d'une première femme pasteur bouscule les habitudes. Vous êtes bien sur Haute Fréquence jusqu'à 20h, l'émission qui interroge, surprend et même dérange dans le monde complexe des religions et des spiritualités. Bienvenue à vous. Dimanche dernier, le sujet sur la décision de l'Église réformée neuchâteloise de fermer ses temples aux cérémonies laïques vous a fait réagir.
Je viens d'entendre M. Bourquin, président du conseil synodal de l'ERN. Félicitations à lui pour la clarté de ses explications. Je ne savais pas trop quoi penser en lisant cette décision dans la presse il y a quelques jours. Grâce à ses explications, je me rallie volontiers à la décision prise par l'Église neuchâteloise, décision qui pourrait avantageusement inspirer les églises des cantons voisins.
Et le reportage en Irak sur la restauration du patrimoine chrétien et yézidi a suscité ce commentaire.
Oui, bien sûr, la reconstruction de l'église de Mossoul est importante, mais ce qui me semble plus important, c'est la reconstruction de n'importe quel bien culturel et cultuel détruit. Non seulement à Mossoul, mais partout où une puissance étrangère a voulu faire disparaître une civilisation. Et à nous, Européens, de nous souvenir de ce que nous avons fait disparaître.
Et pour les sujets de ce soir, merci de nous appeler au 058 236 60 70 pour toute appréciation.
Haute fréquence, le magazine de la spiritualité et des religions.
Laurence Villot, bonsoir.
Bonsoir Gabrielle.
Le 22 janvier dernier, la palestinienne Sally Azar a été ordonnée pasteur dans l'église luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste en Israël-Palestine.
Oui, elle a 26 ans, elle a étudié la théologie au Liban et en Allemagne et elle a surtout passé une grande partie de son enfance à l'église luthérienne du Rédempteur dans la vieille ville de Jérusalem puisque son père y a travaillé pendant 30 ans. Comme pasteur.
Son père, donc l'évêque Sani Ibrahim Azar. Mais Laurence Villot, cela fait déjà 17 ans que cette église luthérienne permet l'ordination des femmes.
Oui, c'est vrai. Et si en Occident, les églises issues de la réforme sont historiquement plus ouvertes à l'ordination des femmes, eh bien, ce n'est pas le cas partout. Au Moyen-Orient, 4 femmes seulement sont pasteurs, 3 au Liban et 1 en Syrie.
Et d'ailleurs, l'ordination de Sali Azar rencontre déjà des résistances.
Absolument, son ministère n'est pas accepté par tout le monde. Par exemple, lors de son ordination, les chaises réservées aux représentants des autres églises chrétiennes sont restées presque toutes vides.
Pour comprendre le contexte de cette ordination et les enjeux qui l'entourent, on accueille tout de suite Marie-Armelle Beaulieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Vous êtes basée à Jérusalem. Marie-Armelle Beaulieu, peut-être pour commencer, quelles sont les premières réactions que vous avez observées à Jérusalem suite à cette ordination?
Alors, je distinguerai les toutes premières qui sont venues de l'église luthérienne de Terre Sainte elle-même et tout de suite avec de l'église anglicane, et ces réactions-là ont été très positives. En revanche, il y a eu très rapidement derrière un flot de réactions plutôt négatives de la part de l'ensemble de la communauté chrétienne palestinienne d'Israël, Palestine et Jordanie. On a entendu parler de sacrilège, d'hérésie, voire d'obscénité.
Vous parlez d'hérésie, de choses obscènes, c'est des mots forts, non?
Ah oui, mais elle a vraiment été insultée. J'ai vu un commentaire qui disait que c'était épouvantable de voir ses cheveux plaqués sur son visage alors qu'elle était à l'autel. Effectivement, vous voyez, pour la majorité des fidèles ici, voir une femme, donc avec une aube, la retransmission de la célébration a été faite sur YouTube, et on a vu en fait des photos où elle porte un calice dans ses habits de pasteur devant l'autel. Et là, beaucoup de gens ont été choqués. Il y a même des gens qui ont cru que, d'une certaine façon, le Christ dans les saintes espèces avait été outragé. Sauf que ces gens-là ne savent pas que, précisément, dans le culte luthérien, Jésus n'est pas dans le pain et dans le vin. Il n'y a pas de transsubstantiation, comme dans l'Église catholique et d'une certaine façon dans l'Église orthodoxe. Il n'y a pas présence du Christ dans le pain. Mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, ils ont cru qu'il y avait eu sacrilège à cause de ça.
Vous parlez des autres églises de Terre Sainte, hein, mais dans les églises issues de la Réforme, en Occident, c'est très courant d'avoir des femmes pasteurs. En quoi le contexte israélo-palestinien a influencé les églises issues de la Réforme dans le fait de ne pas ordonner les femmes?
Nous sommes ici sur un autre continent. Notre continent, à nous, ici à Jérusalem, c'est l'Asie. Par conséquent, l'Asie n'a pas la même histoire que l'Europe, n'a pas la même histoire ecclésiale que l'Europe. Sur cette région du Proche-Orient, donc hein, c'est l'Orient le plus proche de l'Europe, sur cette région du Proche-Orient, la culture dominante aujourd'hui, elle est musulmane. Et le fait que la communauté chrétienne soit très minoritaire dans un bassin musulman, eh bien, il y a, je dirais, des influences sur cette culture. Et ici, nous avons dans cette région du monde, dans cet autre continent, dans ce Proche-Orient, nous avons une culture qui est éminemment patriarcale. C'est l'homme qui domine tout. Par conséquent, le rôle de la femme n'est pas complètement nié, mais en termes de responsabilité, là, effectivement, elle n'a pas de responsabilité. Elle n'en a pas dans la société, en règle générale, le plus souvent. Ça peut arriver, hein, y a des exceptions, bien sûr. Mais elle n'en a pas non plus, du coup, dans les églises et dans les différentes religions.
Maintenant, Marie-Armelle Beaulieu, est-ce que cette ordination va avoir un impact au sein de la communauté chrétienne?
Au sein des communautés anglicanes et luthériennes, sans aucun doute. Je connais une jeune fille, elle étudie déjà la théologie, elle s'interrogeait sur ce qu'elle allait en faire. Et elle a exprimé que l'ordination de Sally Hazard était pour elle un exemple et probablement un moteur pour aller plus loin et éventuellement suivre le même chemin. Donc ça va changer des choses dans cette communauté luthérienne et dans la communauté anglicane, très probablement. Mais anglican et luthérien, dans la petite communauté chrétienne d'Israël, Palestine, c'est la minorité de la minorité de la minorité, si je puis dire. Parce que sur 180 000 chrétiens arabes qu'on a sur tout le territoire de la Terre Sainte, Israël et Palestine, on compte au grand maximum 2500 luthériens, par exemple. La majorité, elle est orthodoxe. La majorité, elle est de rite oriental. Et par conséquent, ces églises-là ne sont pas prêtes, ne veulent pas, ne veulent même pas entendre parler d'un changement. Pour eux, le sacerdoce est réservé aux hommes, point.
Sally Hazard va travailler en partie auprès de la communauté anglophone, donc surtout des expatriés. Est-ce que c'est une manière de ne pas brusquer les habitudes en Israël-Palestine?
Alors c'est pour Jérusalem et pour Israël qu'elle va travailler en langue anglaise, mais elle-même dit qu'elle va travailler dans sa langue, l'arabe, pour les chrétiens de la micro-communauté luthérienne de Betsaour. Mais oui, effectivement, ce mi-temps consacré à la communauté anglophone est une façon de ne pas brusquer sa propre communauté. Ça va pas de soi chez tout le monde, même chez les luthériens.
Mais est-ce qu'il y a quand même des mouvements qui militent pour l'ordination des femmes ?
Non, il n'y en a pas. En Europe, nous avons connu des grands mouvements de réforme de l'Église à partir des années 50 et pour l'Église catholique avec le Concile Vatican II qui s'est clos en 1965. Le temps que le Concile et ses résolutions se mettent en place dans les paroisses, il a fallu attendre les années 67, 68. Et il se trouve qu'ici, en Israël-Palestine, eh bien, ça faisait 20 ans que les Palestiniens avaient commencé une guerre avec les Israéliens sur la question israélo-palestinienne qu'on connaît bien par ailleurs. En 1967, c'était une nouvelle guerre puisque c'était l'annexion de Jérusalem par les Israéliens et la perte des territoires palestiniens qui étaient occupés par la Jordanie depuis 1948. Donc c'était le cadet de leurs soucis ici de réceptionner le Vatican II et ses changements. Et donc après on a réceptionné Vatican II avec le changement de langue, la possibilité de célébrer en langue arabe plutôt qu'en latin ici. Mais il y a tout un tas de changements de mentalité qui ont été relativement naturels dans le bassin européen, qui ne se sont pas faits ici. Pour des questions, parce qu'en 67, il y a une guerre, en 73, il y a une autre guerre, et donc les Palestiniens avaient d'autres chats à fouetter. Déjà, ils essayaient de garder la foi, et c'était pas mal. Et puis, ben, ce mouvement, c'est définitivement pas fait, parce que nous ne sommes pas dans la même culture. Il faut vraiment le respecter, ça, il faut l'entendre.
Depuis 2017, Sally Hazard est la cinquième femme à avoir été ordonnée au Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut quand même y voir une ouverture au ministère féminin ?
Personnellement, je n'y crois pas. Le cas du Liban, où il y a trois de ces cinq femmes pasteurs, est un peu différent. Le Liban, depuis très longtemps, a été un pays où la culture a été beaucoup plus brassée avec la culture européenne et aujourd'hui américaine. Le cas de cette femme pasteur en Syrie est tout à fait exceptionnel et à mon sens, pour le coup, plus exceptionnel que la palestinienne. Mais je ne pense pas qu'il y ait ce mouvement qui se dessine ici. Et je vais vous donner un parallélisme dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique de rite romain, qui est majoritaire en Europe et qui existe ici, il y a ici deux diacres permanents. Donc des hommes laïcs ordonnés diacres, ils sont mariés. Il n'y en a que deux. Ils ont été ordonnés il y a une dizaine d'années maintenant et il n'y en a pas depuis. Ça n'a pas entraîné d'autres ordinations diaconales parmi les hommes mariés. Et je pense que la raison, c'est que, en fait, ici, le prêtre, il est homme, il est de préférence célibataire. On voit bien déjà qu'il y a une dépréciation de certains prêtres mariés dans les églises orientales par rapport aux religieux célibataires prêtres. Et donc, s'il y a déjà une dépréciation du prêtre marié dans les églises orientales qui existe depuis 2000 ans par rapport au prêtre non marié, vous imaginez la femme prêtre, oh là, on n'y est pas.
Mais dernièrement quand même, une femme rabbin a été ordonnée chez les juifs orthodoxes, une première également. Il y a quand même peut-être le signe d'une amorce de changement, non ?
Il y aura toujours des exceptions, mais pour moi ce ne sont pas des amorces de changement.
Très bien.
Maintenant, il faut que des exceptions existent pour qu'un jour, le changement puisse se faire.
Qu'est-ce que vous souhaitez finalement à cette jeune Sally Hazard ?
Je lui souhaite, à elle, comme à tous les hommes qui sont ordonnés prêtres ou pasteurs, qu'elle soit véritablement en mesure de donner le Christ et l'espérance qu'il nous donne à nous pour cette communauté qui lui est confiée, dans une situation dont vous n'ignorez pas qu'elle est ici particulièrement difficile pour la communauté chrétienne. Ce dont on a besoin, c'est que nos pasteurs, hommes et femmes, hommes ou femmes, dites-le comme vous voulez, nous donnent véritablement le moyen de s'enraciner dans l'espérance malgré les difficultés rencontrées.
C'est sur cette note d'espérance qu'on va terminer. Merci beaucoup Marie-Armelle Beaulieu d'avoir été quelques instants avec nous. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine à Jérusalem. Belle suite de soirée, merci.
Merci.
Au revoir, merci. Roman candles are burning the night, yeah.
up my life. You've always been a thorn in the side, but to me you're a shining light. You arrive and the night is alive. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. We made a connection, a full chemical reaction, but by dark divine intervention,
Shining Light, un titre d'Annie Lennox sur la première.
Haute fréquence.
Le son des religions. Et nous allons de ce pas à travers champs et vignes. C'est avec vous, Camille Besse. Bonsoir.
Bonsoir, Gabrielle.
Vous nous emmenez en fait à la découverte de la biodynamie.
Oui, car si on n'a plus besoin de présenter l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique, qui est censée être plus bio que bio, est-elle en fait plutôt mystérieuse ? J'ai donc voulu en savoir plus sur la méthode qui ne propose pas uniquement aux agriculteurs de n'utiliser aucun engrais de synthèse, mais donne peut-être une dimension un peu plus spirituelle à leur travail.
Ceux qui la pratiquent seraient donc à la fois agriculteurs et croyants ?
Eh bien, comme toujours, la vérité est plus nuancée. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater auprès de ceux que j'ai directement rencontrés et accompagnés dans leurs tâches quotidiennes. Car si les agriculteurs utilisent la méthode biodynamique, certains se distancient aussi de la figure de son inventeur, Rudolf Steiner, le père donc des anthroposophes.
Vous vous êtes donc rendu dans un premier temps à Aubonne.
Oui, et j'y ai retrouvé Raphaël Jetta. C'est un maraîcher qui s'est récemment installé au domaine de Chivrajon. Il y cultive toute sa production de fruits et légumes en biodynamie. Avant de me déplacer dans un deuxième temps, à quelques minutes, dans les vignes de Laura Paco, elle est à la tête du domaine de la Colombe à Féchy.
Concrètement, dans quelles activités les avez-vous suivies ?
Alors l'hiver, c'est plutôt la période de repos, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi préparer les arbres et la vigne pour la saison qui vient. Et à la différence de l'agriculture traditionnelle, en biodynamie, eh bien, il faut aussi consulter le calendrier lunaire avant d'entreprendre certains travaux. Laura Paco m'a donc emmené tailler et tirer les branches des ceps de vigne, mais d'abord pour Raphaël Jetta, le jour était propice à la préparation de ce qui s'appelle un prépara, dont je vous laisse découvrir la recette. Nous le retrouvons directement au bord de la cuve de dynamisation qu'il a lui-même construite et qui lui sert à travailler l'eau de pluie, donc l'un des ingrédients de ce prépara.
On a fabriqué donc cette station de dynamisation vu qu'on le fait assez régulièrement, surtout pendant ce qu'on appelle la belle saison, mais toutes les saisons sont belles. Mais c'est que l'été, on peut faire jusqu'à une fois par semaine des dynamisations. Donc c'est-à-dire qu'on, vu qu'on remue souvent, ça peut être un peu épuisant physiquement. Certains traitements, on va dynamiser 15 minutes et d'autres jusqu'à une heure. Ce qui se passe, c'est que du coup, pour alléger ça, on s'est construit cette structure. Et donc là, on a récupéré une cuve en inox de brasseur finalement, mais où il y a de l'eau de pluie. C'est cette eau qu'on va utiliser, qu'on va dynamiser. Puis on a fabriqué une sorte de pale qui nous permet d'avoir plus d'amplitude dans nos mouvements, plus de force, et du coup être moins épuisé physiquement, parce que le but c'est de faire du bien à la nature, mais c'est aussi de se préserver soi-même physiquement et également l'équipe finalement, et pas d'être épuisé pour rien.
Donc c'est une grande pale en bois en fait que Raphaël Jetta est en train de plonger dans l'eau.
La dynamisation, c'est l'idée en fait que normalement, à l'état naturel en tout cas, est-ce que c'est normal ou pas, c'est un autre débat, mais en tout cas l'eau est toujours en mouvement. Elle va sortir d'une source, elle va couler dans un ruisseau, elle va peut-être rejoindre un champ, ensuite elle va peut-être s'évaporer, retomber sous forme de pluie, après les plantes vont la filtrer, elle va de nouveau s'évaporer, peut-être passer par un humain ou un animal et ainsi de suite. Et donc cette eau, c'est une eau qui est en mouvement constant, c'est une eau qui est vivante finalement. Et donc l'idée de la dynamisation, c'est de prendre de l'eau qu'on a. Là, on prend de l'eau de pluie parce qu'il pleut suffisamment ces derniers temps. Et du coup, on va brasser cette eau dans un sens, puis dans un autre pendant un certain laps de temps pour créer ce qu'on appelle vraiment un vortex au début. Donc le vortex, c'est un peu ce qui peut apparaître dans un évier ou une baignoire quand on enlève le bouchon. Et une fois que ce vortex se crée, bon, nous, on essaie de voir le fond de la cuve, on dit bien tourner. On vient casser ce vortex, donc on crée un chaos et on recommence dans l'autre sens.
Donc là, on entend la petite sonnerie, 10 minutes sont passées.
10 minutes sont passées, avec un petit moment encore avant de dynamisation, avant de mettre le minuteur. Très souvent, on le fait plus soit au feeling, soit c'est quelqu'un de l'équipe extérieure qui crie au loin ou qui sonne quelque chose pour dire que c'est fini, pour que cette tâche, on soit complètement dedans et qu'on n'ait pas une question de temps ou autre comme le reste de la journée, ou c'est toujours une question de timing, etc. Mais donc là, on est arrivé au bout sur ce jour-là pour la dynamisation de l'eau.
Et vous, comment vous sentez après ce mouvement qui vous a aussi emmené quelque part ?
Il peut y avoir différents effets sur chacun. Ça peut... Généralement, on essaye de ne pas dynamiser quand on est de mauvaise humeur ou autre, mais ça peut aussi, parce que personne n'est parfait, on l'a eu fait. Ça peut également parfois nettoyer. On a l'impression qu'on en ressort finalement serein peut-être, ou je ne sais pas quel est le bon terme, mais c'est assez agréable.
Et c'est quoi la prochaine étape ?
Donc là, on va aller chercher un bidon simple dans lequel on a mis un peu d'argile. On aura rajouté une préparation biodynamique qui s'appelle la 500P, qui est une préparation à base de bouse de vache qui était mise dans une corne et enterrée pendant un hiver avec différentes préparations pour le compost. Et on y ajoutera, nous, également quelques gouttes d'huile essentielle, de 4 huiles essentielles différentes, pour différentes actions sur la plante et son environnement.
Bonjour.
T'as la liste de livraison dans le berlingot, si jamais.
Il Donc là, c'était une de vos collaboratrices qui s'apprête à livrer des paniers, c'est ça ?
Oui, exactement. On fait différentes commandes et différents paniers. C'est une offre qu'on a. Et là, le vendredi, c'est un de nos deux jours de livraison. Donc là, ils partent en livraison et le reste de l'équipe se consacre aux cultures et à l'entretien, etc., etc. Nous, on cultive plus de 250 variétés de fruits et légumes répartis sur l'année. Il n'y a jamais tout en même temps.
Et au jour d'aujourd'hui, tout est cultivé en biodynamie ?
Tout est cultivé en biodynamie, oui.
Donc là, Raphaël Jetta, vous transportez un seau où il y a de la poudre blanche à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ?
Donc cette poudre blanche, c'est de l'argile blanc qui va être la base de notre badigeon, qui va permettre déjà d'augmenter un peu la texture, qui va adhérer au tronc et ça va permettre, entre autres, parmi tant d'autres utilisations, mais de faire comme une sorte de pommade cicatrisante s'il vient avoir des blessures sur l'arbre, ou alors aussi s'il y a des ravageurs, comme on dit, des œufs de certains insectes qu'on veut pas, ça va réguler, entre autres, avec l'action en complément des huiles essentielles. Ça vient aussi permettre aux huiles essentielles vraiment de se dissoudre comme il faut dans notre traitement et avec la préparation biodynamique qu'on ajoutera dedans. Et l'idée, en gros, tu trempes et puis tu montes jusqu'à la couronne.
Ouais.
Quand t'as des blessures, tu t'insistes un peu dessus.
Ok.
On peut y aller. Hein.
Donc là, vous venez d'expliquer comment on badigeonne un arbre.
Ouais.
Donc c'est quoi comme arbre ?
Là, on est sur un pommier, variété Grafenstein. C'est un pommier qui avait été planté, celui-ci, il y a à peu près 40 ans. Et donc là, comme tous les arbres qu'il y a sur la parcelle, il bénéficie du badigeon sur son tronc. Donc l'idée est vraiment que dans la vue de Rudolf Steiner, l'arbre est une extension du sol finalement. Et en fait, c'est vraiment les fruits qui sont à l'extrémité de chaque branche, c'est comme si c'était un légume qui sortait de la terre. La biodynamie à la base vient du mouvement anthroposophe. Pour ma part, je n'en fais pas partie, mais ça n'empêche pas pour autant de pratiquer la biodynamie et cette approche-là. On compare souvent les différentes approches que nous on a à Chivrajon, comme le fait de regarder un même objet de différents points de vue, finalement. Donc c'est vrai que pour nous, ce qui nous parle énormément, principalement moi, ces derniers temps, c'est qu'on a plongé plus dans l'énergétique par la vision chinoise, de la médecine chinoise. Mais la biodynamie a été vraiment une étape et qui continue de nous accompagner au quotidien. Sur ce cheminement, et au final ça va être dans notre cas, on va de temps en temps, pour essayer de sensibiliser aussi les collaborateurs, faire une matinée au lever du soleil pour regarder les étoiles, les comprendre, faire un traitement. J'ai essayé de les sensibiliser à faire un peu de méditation, peut-être avec moi s'ils le veulent, ou sans moi également. On n'a pas forcément envie d'être toujours avec son patron, ou alors essayer juste d'être sensible à ce qui se passe autour de nous. La spiritualité, ou peu importe comment on le qualifie, selon moi c'est juste observer et accepter de ce qui se passe ici et maintenant, à cet instant, quand on regarde l'environnement où il y a plein d'informations. Et c'est cette idée de mouvement constant, et c'est de s'inscrire là-dedans et pas toujours être dans nos pensées et de se détacher de ces instants magiques que la nature nous offre.
Mais il n'y a pas beaucoup de maraîchers qui cultivent comme vous en biodynamie. Est-ce que dans le milieu, vous êtes un peu considéré comme un ovni ou une personne un peu particulière ?
Je pense pas qu'on soit considéré dans la norme, assurément. Après, est-ce qu'on est un ovni? Ça dépend à qui vous demandez. Je sais qu'au début, on n'avait pas eu un très bon accueil de tous les agriculteurs, mais c'est normal aussi d'avoir peur qu'on fasse n'importe quoi. Je pense qu'en tout cas, on a une démarche holistique. Je pense qu'il y en a plein qui vous tendent vers ça gentiment. Et après, c'est aussi comment on le partage ou pas et comment on met ça en place. Mais je pense qu'intérieurement, on a tous envie de façon d'évoluer dans un cadre agréable au sens large. Après, je pense qu'on est un peu des outsiders par rapport à ce qui se fait de manière large dans l'agriculture, en tout cas dans notre région.
Raphaël Jetta, à l'instant, un maraîcher qui cultive au-dessus d'Aubonne un jardin un peu différemment, Camille Bess, avec des méthodes que l'on pourrait même qualifier d'ésotériques. Mais comment est-ce que ça marche, en fait, la biodynamie ?
Eh bien, pour mieux le comprendre, j'ai rencontré Alexandre Grandjean. Il est anthropologue à l'Institut des sciences sociales des religions de l'Université de Lausanne. J'ai donc commencé par lui faire écouter le reportage que l'on vient d'entendre.
En écoutant cette séquence, j'étais justement en train de me dire que s'il fallait résumer aujourd'hui ce qu'on utilise par le terme de biodynamique, ce serait avant tout une sorte d'étiquette que se donnent les praticiens eux-mêmes pour dire qu'ils se permettent d'être créatifs. Ils se permettent d'aller chercher des techniques un peu à droite à gauche, d'expérimenter, de voir qu'est-ce qui leur convient, d'individualiser leur gestion du quotidien. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le regard qu'au final on porte sur la biodynamie aujourd'hui, où c'est plus simplement un grand courant, mais comme ça a été très bien décrit, c'est un regard que l'on choisit de porter sur le monde végétal, sur le soin à l'autre, la relation, parmi d'autres possibilités de regard avec laquelle on est en train de jouer.
Alexandre Grandjean, pourtant s'il fallait finalement quand même essayer de donner une définition de la biodynamie, ce serait laquelle ?
On peut revenir déjà sur l'origine de ce qu'on appelle la biodynamie. Enfin, moi j'appelle la biodynamie, c'est l'ensemble de textes qui proviennent de l'anthroposophie, qui théorise, entre guillemets, cette pratique. Et puis après, je parle d'agriculture biodynamique quand je parle de la reprise créative des praticiens et des praticiennes. À la base, donc on est en 1924, au début du siècle, et au sein de ce mouvement de quête spirituelle plutôt germanique, plutôt nordique, européen, Rudolf Steiner va donner une série de 8 conférences, le cours aux agriculteurs, où il va s'opposer, entre guillemets, à la grande mécanisation, la grande industrialisation de l'agriculture. Et ce qui est amusant, c'est que Rudolf Steiner va théoriser tout un ensemble de pratiques avec une grande vision du cosmos, envisageant qu'il y aurait des forces élémentaires, des forces formatrices de vie, de mort, des forces qui viendraient du cosmos, qui seraient plutôt de nature spirituelle, et des forces qui seraient plutôt terrestres, qui seraient plutôt matérielles. On est dans un type d'agriculture holistique. Alors holistique, c'est un très gros mot qu'on utilise souvent à toutes les sauces, mais l'idée, c'est quand même de se dire, on va essayer de penser un ensemble large, de penser un écosystème, de penser des relations entre les différents éléments. On va plus simplement s'occuper de la plante que l'on cultive, mais on va s'occuper d'un écosystème et on va créer des conditions cadres pour que les plantes puissent se développer au mieux, avoir une vitalité, développer un système immunitaire qui leur permette de lutter contre les ravageurs, en tout cas de mieux résister, plutôt que d'utiliser ce qui est souvent qualifié dans le milieu d'une béquille agrochimique, c'est-à-dire un ensemble d'artifices techniques, humains, qui sont certes très efficaces, mais ont aussi des effets secondaires des fois néfastes.
Raphaël Jetta va chercher son inspiration au-delà de la biodynamie. Il puise notamment dans la médecine chinoise. Vous-même, vous avez beaucoup étudié cette quête de spiritualité dans les milieux agricoles. Qu'est-ce qui motive finalement certains praticiens à chercher, à tenter d'autres méthodes de travail ?
Ce qu'on se rend compte, en tout cas dans notre équipe de recherche, c'est pas forcément qu'il y a un retour du religieux, mais il y a une sorte de diffusion de références spirituelles qui s'immiscent un peu dans plein de domaines où avant on ne les voyait pas trop, où elles étaient moins explicites, peut-être plus associées au christianisme, et qui aujourd'hui se permettent plus d'exploration, plus d'exotisme, et qui n'essayent pas de renverser l'ordre entre guillemets non religieux, séculier, mais qui au contraire l'accompagnent et accompagnent notamment les connaissances scientifiques. Au final, j'ai l'impression que Raphaël Guetta n'est pas si différent d'autres praticiens et praticiennes qu'on peut rencontrer dans l'agriculture ou dans la viticulture. Et il fait partie de cette génération un peu cosmopolite qui a accès à l'information, qui a accès au voyage, qui a accès à tout un ensemble de techniques et d'imaginaires qui étaient plus difficiles à acquérir auparavant et qui sont des formes de spiritualité que j'aime bien qualifier de subtiles, de populaires, dans la mesure où elles ne sont pas forcément portées par des institutions, par des grands mouvements sociaux, mais qui sont diffusées à travers les livres, à travers les documentaires, les podcasts, des formes un peu fragmentées de spiritualité qu'on va convoquer, qu'on va utiliser au quotidien et qu'on va composer avec d'autres éléments.
Vous écoutez Haute Fréquence et on vient d'entendre Alexandre Grandjean parler de la créativité des agriculteurs biodynamiques. Certains n'hésitent donc pas à adapter la théorie biodynamique à leurs propres besoins, leurs propres croyances, on peut dire ça, Camille Bess ?
On peut le dire, et c'est vrai que l'on trouve des profils très différents parmi celles et ceux qui pratiquent cette biodynamie. Dans la deuxième partie de ce reportage, vous allez entendre Laura Paco, une vigneronne à la tête du domaine de la Colombe à Féchy. Nous sommes allés dans l'une de ses parcelles, en voiture.
Chaque lieu dit à Féchy, il a un nom. Et puis nous, c'est vrai qu'après, en vinification, on isole plusieurs parcelles comme ça et puis on leur donne le nom du lieu dit. On va aller sur une parcelle que j'aime particulièrement qui s'appelle les Curzilles. Donc c'est entre Féchy et Aubonne. Et puis c'est une parcelle que mon papa avait complantée de plusieurs cépages. Donc c'était déjà un peu une idée d'amener comme ça de la biodiversité, au moins par un nombre de cépages. Nombre, avoir beaucoup de cépages différents.
Et là, on est vraiment sur des toutes petites routes à travers Vigny. Donc on s'arrête, on est arrivé. Et vous nous emmenez donc tailler les cèpes. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant ?
Alors maintenant, on arrive un petit peu dans le repos hivernal. Donc c'est un peu la période plus tranquille hein, pour la vigne. Et puis on va tout soudain commencer à tailler parce qu'on se rapproche du 21 décembre. Et le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc ça veut dire que c'est le jour le plus court de l'année et qu'à partir du 21 décembre, les jours ils vont de nouveau se rallonger. Donc jusqu'au 21 décembre, les forces elles allaient vers l'intérieur, hein, les jours de plus en plus courts comme ça. Donc les forces elles vont vers l'intérieur, donc ben, la sève allait va jusqu'à l'intérieur de la plante, donc dans les racines. Donc on accumule les réserves qui permettront l'année prochaine de repartir pour pousser. Donc nous, on ne veut pas gaspiller des réserves, donc on essaye de ne pas tailler la vigne avant qu'elle ait accumulé le maximum de réserves pour ne pas les couper bêtement. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle on dit toujours que c'est bien de tailler tard, parce que comme ça on a accumulé le maximum de réserves. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que quand on taille, ça fait des petites plaies. Et puis ces petites plaies, si la sève elle va vers l'intérieur, et ben ça peut amener un petit peu des maladies du bois, des champignons, à la vigne. Tandis qu'à partir du 21 décembre, les forces elles vont de nouveau un peu vers l'extérieur, donc la sève elle va plutôt de nouveau sortir, et donc ça diminue aussi un peu ce côté maladie. C'est un peu de la prévention quoi, pour une bonne santé et longévité des cèpes. Donc on dit que c'est bien de tailler quand la lune elle est descendante et puis qu'elle décroît, ça favorise un peu la vigueur, ça, pour garder la vigueur pour l'année prochaine. Donc d'un point de vue lunaire et planétaire, c'est plutôt un bon jour aujourd'hui. Mais comme il pleut, ben, il faut garder le bon sens paysan et puis pas tailler parce que le calendrier dit qu'il faut tailler. Donc, les bons jours on taille et les jours où il pleut ou bien où il y a un nœud lunaire ou quelque chose qui est un petit peu moins positif, et ben, on sort les bois.
Très bien, alors allons-y.
Donc ça, ce sera la future branche à fruits. Ici, c'est vraiment le cas d'école parfait, quoi. Il y a la future réserve, donc ça, c'est ce qu'on construit pour l'année prochaine. Hein. C'est vraiment la vigne, elle est toujours dans ce côté pérennité. Donc, moi, j'ai encore des vignes de mon grand-père qu'il avait plantées qui ont plus de 60 ans. Et puis, ben, moi, je plante des vignes que j'espère seront en bonne santé dans 50 ans. Donc, toujours penser à la pérennité. Donc, ça, c'est la réserve où on va garder pour l'année prochaine. Et puis, ça, c'est la branche à fruits, donc c'est là qu'on va récolter les raisins. Et puis là, je coupe la branche à fruits, comme ça, après, ça facilite. C'est quand je disais qu'on sort les bois, on sort les bois pour les mettre par terre. On tire les bois comme ça, et puis après, on les met par terre. Dans la biodynamie, les deux choses très importantes, c'est le sol. Donc si on a un sol sain, eh ben, on aura une plante saine, ça paraît cohérent. Donc très important, le sol. Et puis la deuxième chose très importante, c'est tout ce qui est un peu cosmos, donc justement cette interaction avec les planètes, avec le soleil, la lune, etc. Et puis bah du coup avant c'était un exemple de cycle annuel, mais en fait tous les jours il y a le cycle du soleil qui se lève, donc avec la force qui va vers en haut, et puis le soleil qui se couche, donc la force qui va vers en bas. Voilà, donc tous les jours il y a des cycles.
Mais vous nous parlez du bon sens paysan, vous êtes quelqu'un de terre à terre, et là vous me parlez du cosmos. Laura Paco, comment vous conciliez les deux?
Le cosmos est du bon sens. Bah, tout ce qui est bûcheron, bûcheronnage, etc., selon les moments où il coupe le bois, il va sécher beaucoup mieux, etc. Donc, c'est vrai que nous, on est vigneron, hein, donc on observe un peu de ce qu'on fait. Voilà. Donc, en biodynamie, on va aussi appliquer des préparations un peu farfelues, si on les explique dans le détail, mais c'est vraiment par observation qu'on est motivé à le faire. Voilà. Du bienfait que ça peut procurer. L'idée, c'est vraiment parce que la vigne, elle a beaucoup de maladies qui ont été importées, hein, depuis 150 ans, mildiou, oïdium, c'est que des maladies, des nouveaux insectes, etc. Donc on est obligé de sulfater avec des produits, hein, aussi en culture biologique, des tisanes, etc. Et puis la biodynamie, ça va vraiment encourager à renforcer le système immunitaire des plantes pour qu'elles puissent se défendre au maximum toutes seules.
Mais vous, donc, en tant que vigneronne, vous constatez les effets bénéfiques de la biodynamie sur vos vignes?
Oui, oui, sinon on ne ferait pas, hein, c'est clair. Ben, en fait, par le vin, donc le vin, ça se fait à la vigne, ça c'est clair. Donc si on a bien travaillé à la vigne, les vinifications vont mieux, ce sera plus facile, on va dire. Et donc, peut-être si on comparait deux raisins, ce serait plus difficile de voir la différence, mais je trouve qu'avec les phénomènes de fermentation, hein, donc des levures qui transforment des sucres en alcool, et ben là ça amplifie un peu peut-être la différence. Et puis c'est subtil, hein, mais c'est peut-être une fermentation où il n'y a pas de réduction, c'est une fermentation qui va jusqu'au bout des sucres, c'est une fraîcheur, et puis c'est pas forcément analytique, c'est vraiment un ressenti, donc c'est pas facile à mesurer, mais ça se passe, quoi.
Mais donc c'est un ressenti au niveau du goût, hein, c'est ça que vous me dites?
Ouais. Et puis à la vigne, après le sol, hein, si on fait un coup de pelle, on a un sol peut-être moins tassé ou des choses comme ça. Ouais. Et puis la vigne aussi, selon les préparations qu'on fait, ça, le porc est plus érigé. Voilà. Ouais.
Est-ce que c'est plus contraignant la biodynamie que la culture traditionnelle?
Alors, même la biodynamie, ils disent, hein, il faut faire ses calendriers lunaires si c'est possible. Et à la vigne, le premier critère pour moi, c'est la météo. Et puis après, si c'est possible, on fait le calendrier lunaire. Donc pour la taille, qui est quelque chose de très lent, on peut s'organiser de ne pas tailler le jour où il ne faut pas. Mais les vendanges, par exemple, ben non, là, on cueille quand il ne pleut pas, on cueille quand c'est mûr. Enfin, il y a déjà tellement de paramètres. On cueille quand les vendangeurs sont là. Enfin, il y a l'état sanitaire. Enfin, il y a déjà beaucoup trop de paramètres pour prendre en considération le calendrier lunaire pendant les vendanges. Et puis à la cave, on peut aussi un peu anticiper les travaux d'une mise en bouteille, d'un transvasage. Donc là, on peut aussi regarder le calendrier. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps possible. C'est pas tout le temps possible.
Mais vous, aujourd'hui, vous adhérez à tous ces préceptes de la biodynamie? Vous y croyez ou vous constatez qu'ils fonctionnent?
Constate qu'ils fonctionnent. Et puis nous, on n'est pas des extrémistes. Hein. Nous, on applique à la vigne certains conseils qu'on nous donne, on les essaye, on adhère ou on fait autre chose.
Laura Paco, à votre micro, Camille Bess, une vigneronne qui cultive selon les principes de la biodynamie, mais en faisant d'abord preuve de bon sens. Il y aurait ainsi deux courants parmi les adeptes de la pratique, les modérés et les plus stricts ou extrémistes, pour reprendre ces mots?
C'est justement ce que je me suis demandé, et pour y répondre, nous retrouvons Alexandre Grandjean.
Je dirais pas qu'il y a deux courants. Je dirais qu'il y a autant de courants qu'il y a de praticiens et de praticiennes de la biodynamie. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans la vigne, les vignerons et les vigneronnes n'étaient pas invités à la biodynamie. Ils n'étaient pas invités à la grande fête pour deux raisons. Déjà parce que dans le mouvement anthroposophique, l'alcool n'est pas conseillé ou n'est pas autorisé. Et aussi parce que la biodynamie, à la base, a été pensée, conçue pour des grands domaines en polyculture. Or, en Suisse, avec des petits domaines de 4 à 20 hectares en monoculture, on est déjà assez loin de l'imaginaire anthroposophique de base. Ce qui est en tout cas intriguant pour les sciences sociales aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les appels à individualiser sa pratique dans l'agriculture, qui est un peu la base du message de la biodynamie, a tellement bien fonctionné que les praticiens eux-mêmes s'individualisent des institutions. on a plutôt un profil de distanciers institutionnels qui, comme on a pu le voir, vont expérimenter tout un ensemble de pratiques parce qu'elles leur conviennent et non pas parce qu'elles rentrent dans un cadre idéologique plus large.
Dans le reportage, Laura Paco va faire un lien entre cosmos et bon sens. Est-ce que c'est un point de vue qui se retrouve chez d'autres vignerons que vous avez rencontrés ?
C'est variable, mais oui, il y a en tout cas tout l'imaginaire du cosmos. Et quand on parle de bon sens dans ce milieu-là, on parle d'une tradition qui est un peu plus large, à la paysannerie. C'est le bon sens paysan, c'est-à-dire d'expérimenter, de tester, plutôt que de croire aveuglément et de voir si ça fonctionne. Et comme elle le rappelle, si pour moi ça ne fonctionnait pas, je ne le ferais pas. Pourquoi est-ce que un maraîcher ou alors une vigneronne prendrait du plaisir à se lever à 5 heures du matin pour faire des préparats qui sont assez exigeantes si, pour eux, de manière subjective, au niveau du ressenti, que ce soit prouvé ou non scientifiquement, mais en tout cas que pour eux-mêmes ça apporte quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils le feraient ?
Vous l'évoquez, certains praticiens de la biodynamie ne l'affichent pas. Est-ce que finalement c'est une méthode de travail qui n'est toujours pas bien vue dans les milieux agricoles et pourquoi ?
On peut dire qu'il y a des tensions, il y a des conflits, il y a en tout cas un stigmate qui est apposé à la biodynamie. Les pionniers, entre guillemets, de l'agriculture biodynamique en Suisse romande ont une posture assez véhémente à l'encontre de leurs collègues et de leurs pratiques de traitement, leurs pratiques de soins avec les intrants de synthèse. On se rend compte aussi qu'en existant, ce domaine de l'agriculture biodynamique, au-delà des labels de certification, au-delà entre guillemets, de ce qui est officiel, il y a surtout des partages de pratiques, des fois des amitiés qui se nouent dans les caveaux viticoles et qui font que, voilà, même dans le conventionnel, on a un mouvement qui bouge très vite. Donc maintenant, on n'est plus autant dans une logique un peu antagoniste, un peu de conflit, on est plutôt dans une logique de cohabitation, en tout cas de chercher des arrangements, parce qu'évidemment, quand le voisin traite en conventionnel et qu'on fait de la biodynamie, il faut chercher des arrangements. Donc il y a aussi toutes des pratiques de bon voisinage qui se mettent en place. Aussi en étant conscient que dans l'agriculture, on fait avec ce qu'on peut, que c'est prendre des risques que de faire de l'agriculture biologique. Et par exemple, dans la viticulture conventionnelle, beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer me disaient qu'elles étaient intéressées ou qu'elles expérimenter avec des techniques du bio, voire des fois de la biodynamie, mais qu'elles n'avaient pas envie de faire le pas complet parce qu'elles voulaient se garder une liberté si jamais, lors d'une mauvaise année, elles avaient besoin d'utiliser tel et tel produit.
Alexandre Grandjean, anthropologue à l'Université de Lausanne et qui étudie justement lui-même de près le lien entre agriculture, écologie et spiritualité.
En effet, et d'ailleurs pour celles et ceux qui voudraient en apprendre davantage, n'hésitez pas à consulter son livre Arborescence qu'il a publié l'an passé et pour lequel il a rencontré pas moins de 40 viticulteurs.
Merci beaucoup Camille Besse pour cette précision. Et vous qui nous écoutez, une question. Est-ce que vous aussi vous appréciez particulièrement le goût de ces produits qui seraient différents ? On attend vos réactions et commentaires au 058 236 60 70 ou par mail à notre adresse hautefréquence@rts.ch.
Douce maison, jolis chevaux, basse campagne, terrain enclos, notre territoire commun. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure du vent. Rosée brumeuse sur le haut, vieille fumée, et nous avons quatre saisons à partager. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Vaste recoin, terres humides, rien que des champs, et nous voyons ce que nous offre l'horizon. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin.
surface qui refleurit chaque matin. Non, ce n'est pas demain. La fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain. La fin du murmure divin.
Le murmure des chants de Freda sur la première.
Haute fréquence.
Les petites histoires des religions. Musique et ambiance rap maintenant dans cette fin d'émission avec Gab, un jeune rappeur catholique de Lyon. Dans ce premier épisode, il nous dit pourquoi il aime se faire appeler Petit Gab.
Je m'appelle Gab, je suis rappeur, j'ai 25 ans, je mesure 1m93 et on m'appelle Petit Gab. Pourquoi ? Petit Gab, ces moments lâche-toi. Ce soir, c'est courage ou lâcheté. Ces minutes, tu pourras pas leur racheter. On veut ton art en âge. Dès cette nuit, on a la rage des faibles. J'ai cru que t'allais te taire, que t'allais jamais partir. Maintenant, faut que t'assures, c'est ça où j'arrête. On sait que t'as peur comme nous tous. Fais-nous un rap type glorious histoire de faire une première partie.
Vous êtes sérieux, mais c'est qui ce gars? Jouer les experts dans un jeu qu'on maîtrise pas. Le genre de fragile qu'on va vite enterrer. Garçon, oublie tes rêves, c'est dans ton intérêt.
Alors pourquoi Petit Gab? Tout simplement, c'est le fond de ce qui m'habite quand je chante ou quand j'écris. C'est voilà, une de mes lignes de vie. C'est de résister à cette tendance qu'on a dans la société actuellement et qui est hyper forte de la performance, et de trouver l'amour, vivre ses relations, trouver le bonheur par la réussite, le succès, la perf, être au niveau, répondre aux attentes, répondre aux besoins. C'est vraiment une logique un peu de marché qui a envahi notre cœur, quoi. On se dit, bah, ok, ma famille, mes proches, mon frère, ma sœur, mon meilleur pote, c'est si je suis au level, si je fais ce qu'il faut, eh ben, ce sera mon ami, mon frère, ma sœur. Et si je fais défaut, ben, au final, y aura rien. Et ça va tout casser.
Non, je t'appousse, à deux doigts du but, je rafferai chaque pouce, fais la course avec ma tristesse, elle tiendra pas la distance. J'irai bien un genre d'un rap pour donner du sens. Aller au fond de l'existence.
Ce truc-là, je le porte dans L'amour aime les faibles, la chanson qu'on vient d'écouter. Ce qui libère, je trouve, de ça, c'est voilà, la certitude d'avoir un Dieu qui m'aime. Et même sans avoir Dieu dans sa vie, on peut le vivre aussi à travers ses parents ou voilà, la certitude d'être aimé comme un don gratuit, comme quelque chose de gratuit. Et déjà, ça libère du poids de la culpabilité ou de la pression qu'on peut avoir sur soi-même, l'exigence qu'on peut avoir sur soi-même. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc je le vis beaucoup. Et non seulement ça crée ça, mais en plus le fait d'avoir cette liberté-là, d'attendre l'amour des autres comme quelque chose de gratuit, être prêt à se laisser aimer, avoir la confiance en fait dans les autres que bah, ils vont prendre soin de moi, ils sont pas là contre moi, mais ils vont m'aider. Et bien ça aide aussi en fait finalement à se donner à son tour librement et se dire ok en fait j'ai pas besoin d'avoir un background de protection, de sécurité, j'ai pas besoin d'avoir un compte en banque rempli, une belle bagnole, parce que je sais que le monde est conçu et façonné de manière à ce que j'ai ma place et que tout le monde puisse l'avoir. Et donc bah, derrière je peux donner ma place aux autres en fait, je peux céder mon espace de vie, mes besoins. Il y a d'un coup quelque chose qui se libère, qui se facilite, hein, qui devient plus fluide. Je sais que je suis limité, je suis vulnérable, vous l'êtes tous, voilà, si vous m'écoutez, sachez-le. Mais voilà, sachez que vous êtes aimé comme vous êtes et que c'est très bien comme ça.
Et c'est là que commence la vraie vie, au fond de la nuit, quelle est ma clarté? J'apprends à faire le vide sans le colmater, poser les questions sans les écarter. Tous me disent, ne dis pas, tu vas te faire éclater. Oui, j'essaie d'être chrétien, non, je vais pas le cacher. Je vis avec le cœur très loin d'être formaté, je suis de ceux qui ont des mauvais souvenirs du caté.
C'était le rappeur français Gab, il était au micro de Mathias Wirtz.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Martigny-Vevey, de forts ralentissements sont toujours signalés entre Aigle et le tunnel de Glion en direction de Vevey. Davantage d'informations concernant les perturbations pendulaires sur le site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
sommes déjà à la fin de l'heure. Merci de votre écoute. Merci à Laurence Villot, Camille Bess, Mathias Wirtz, François Piton, Yves Roulin et Daniel Zacker pour l'édition de ce soir. C'est Antonin Barre qui est en régie. Si vous trouvez que la biodynamie, c'est à favoriser, ou si vous voulez saluer l'ordination de la première femme pasteur de Terre Sainte, faites-le savoir au 058 236 60 70 ou encore par mail à l'adresse hautefréquence@rts.ch. Tout de suite, les informations suivies du grand soir. À dimanche prochain, vous êtes sur la première, il est 20h.